Bon, alors voilà. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om
Namo
Namo
Bhagavate
Bhagavate
Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om Namo
Namo Bhagavate
Bhagavate
Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om
Namo
Namo Bhagavate
Bhagavate
Vasudevaya.
Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki
Jai.
jai, Hari Bol. Alors, on est à la page 133, ligne 8. Virginie, est-ce que tu veux lire?
Je me mets juste sur la page 136. 133, ligne 8.
OK.
Du
Ça,
moment. Du...
un petit moment. Cette lecture-là, c'est la suite de la classe de Srila Prabhupada. Alors, c'est une longue classe. Et quand c'est Prabhupada qui parle, on est en voiture.
Allez,
Vas-y.
continue. Du moment que quelqu'un est venu en ce monde matériel, il pense, je suis un purusha, je suis un jouisseur. Cette attitude est répréhensible en soi. C'est tout comme si une femme s'habille artificiellement en homme. Ce n'est pas une très bonne affaire. Ça ne lui convient pas vraiment. Nous sommes, à vrai dire, faits pour être au service de Krishna. Mais ici, dans le monde matériel, nous tentons d'être plutôt des purushas, à la recherche de notre propre satisfaction. Telle est notre maladie. C'est répréhensible en soi, c'est un péché. Supposons qu'une femme s'habille comme un homme. Bien sûr, de nos jours, il est très à la mode d'avoir un manteau, un pantalon comme les... Mais ce n'est pas très si beau que ça. C'est artificiel. Donc, tout ce que nous faisons, qu'il soit contre nature, est péché. Telle est la description du péché. Qu'est-ce qu'un péché? Vous, si vous agissez comme il convient naturellement, c'est bien. Mais si vous agissez contre votre vraie nature, c'est péché. Telle est la distinction entre activité pécheresse et activité pieuse. Notre position naturelle est telle que l'a décrit Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jivera Svarupa Ayanitya Krishna Dasa. Chaitanya
Charitamrita.
Chamtamrita, Madhya 20.108-109. Telle est notre position constitutive, d'être éternellement serviteur ou servante de Krishna, comme vous dites. Mais nous essayons plutôt d'être maîtres, c'est péché. Nous nous inventons tant de positions, de situations où nous pensons, comment puis-je être maître? Krishna Bhuliya, Jiva Boga, Vansha Kare, Vachate Maya Tare, Japatiya Dare, Prema Vivarta. L'être vivant, dès qu'il fait fi de sa véritable position de serviteur ou servante de Dieu, lorsqu'il veut tirer jouissance de ce monde matériel, tombe sous l'effet de Maya, l'illusion. Maya Tare, Japatiya Dare, Prema Vivarta. Instantanément, ce qui est un péché en soi. Cette maladie est ainsi présente autour, autant chez le Seigneur Brahma que chez la petite fourmi. Tout le monde essaie de tirer jouissance de cette matière. Toute la civilisation matérielle sous-entend que tout le monde essaie de voir à son avantage personnel en ce monde. Fait bien typique de cette civilisation. On trouve une multitude de voitures qui roulent à gauche, à droite, mais dans quel but? Tout cela parce que tout le monde essaie de profiter de tout pour lui-même. C'est répréhensible en soi. C'est péché, car on ne sait pas vraiment tirer jouissance de quoi que ce soit que pour soi-même. Le bénéficiaire de tout ce qui existe de droit, c'est Krishna. Bhaktaram, Gyana, Tapasam, Sarvaloka, Maheshvaram. Bhagavad Gita 5.29. Tant que vous essayez de jouir de ce qui appartient à Krishna, tout relève de la juridiction de Krishna. Mais vous tentez faussement d'en profiter pour vous-même. Telle est votre maladie.
Ouais, merci
Cette vie
beaucoup.
humaine est parfaite.
Merci, merci, merci.
Merci.
Hare Krishna.
Hare
Omgyanat
Krishna.
Mirandasya Garanjana Sanakaya Chaksurun Melitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Alors, dans ces trois paragraphes-là et ceux qui vont venir par la suite, on a une certaine idée de comment, avec philosophie, on peut arriver à toujours penser à Krishna. Le problème d'oublier Krishna ou de ne pas penser à Krishna et de tomber sous l'effet de quelque distraction que ce soit, c'est qu'on oublie justement notre relation et qui on est vraiment par rapport à Krishna et qu'est-ce que l'énergie qui nous entoure est. Alors, comme Prabhupada a expliqué dans l'introduction de la Bhagavad Gita, il y a certains sujets au nombre de cinq qui sont décrits dans la Bhagavad Gita. Alors, un sujet, c'est Dieu, la personne suprême. Un autre sujet, c'est la prakriti, la nature matérielle. Un autre sujet, c'est le jiva ou l'atma, l'âme distincte, partie parcelle de Krishna. Ensuite, il y a les gunas, le monde les influences de la nature matérielle. Il y a le karma, les actions, réactions. Ce sont des sujets qui sont, et aussi l'influence du temps. Alors, ce sont des sujets qui sont traités dans le Bhagavad Gita. Et quelqu'un peut dire, si jamais on a la mentalité un peu intellectuelle, merci, un peu conditionnée, merci, de quand on ouvre un livre, ça c'est dû à notre soi-disant bonne éducation matérielle. On prend un livre, on ouvre le livre, puis là, ensuite, on tire une certaine conclusion, comme si on était à la petite école. Ah, ça, c'est juste l'introduction. Moi, je suis mieux, je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que l'introduction du livre, un tel. On vous a jamais fait des commentaires comme ça? Quand vous alliez à la petite école, l'introduction s'est faite pour ne pas rester longtemps dedans.
C'est ça, tu passes, on disait, tu passes l'introduction.
C'est ça, ou même passer l'introduction. Et même des dévots qui vont prêcher, et ça, c'est pas un critique pour les dévots, hein, prenez pas ça comme ça. Mais il y a des dévots qui vont, lorsqu'ils voient certaines personnes, puis la personne, ils vont juger pertinent. Et ce n'est pas une faute en soi, mais parfois des dévots vont dire à la personne à qui ils introduisent la conscience de Krishna, ils vont dire, ben, lisez le Bhagavad Gita, commencez par le deuxième chapitre, parce que c'est vraiment là que ça se passe. Que c'est. Et même Prabhupada l'écrit, et c'est Srila, il cite Srila Bhaktivinoda Thakur qui dit que, en fait, le deuxième chapitre de la Bhagavad Gita résume à lui tout seul l'ensemble de la Bhagavad Gita. Alors, c'est un point, mais Prabhupada a dit aussi qu'il voulait que ses dévots lisent ses livres d'un couvert à l'autre couvert. Alors, d'un bout à l'autre. Pas juste piger une page ici, une page par là, par-ci, par-ci. Il voulait que les dévots étudient vraiment en anglais, ils disent scrutinizingly, ça veut dire minutieusement. Et en français, on pourrait dire en profondeur, ces livres. Alors, dans l'introduction de Bhagavad Gita, Prabhupada dit, il y a cinq sujets dans la Bhagavad Gita que traite la Bhagavad Gita. On vient de les énumérer en fait, d'énumérer 6 plutôt que 5, un de plus. Mais tel que, disons, par comparaison à ce qui est écrit noir sur blanc dans l'introduction de Bhagavad Gita. Alors, la beauté de l'introduction de la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, c'est qu'elle est très volumineuse. Ce n'est pas une introduction ordinaire. Alors, Prabhupada présente les points, et quand il fait les points, ça veut dire que c'est pertinent d'en juger de l'importance. Alors, évidemment, quelqu'un peut avoir lu la Bhagavad Gita, par exemple, juste une fois, ou juste deux fois, ou juste trois fois, et c'est pas, disons, ce n'est pas, si on peut dire, ce n'est pas beaucoup comme lecture de la Bhagavad Gita. Alors, son attention, si tu lis la Bhagavad Gita deux, trois fois, là, c'est sûr que tu vas retenir certaines choses si la personne en retient. Mais si tu la lis plusieurs fois, puis là, tu t'aperçois, par exemple, ah, Prabhupada a dit telle chose dans l'introduction. Dans tel chapitre, il répète encore la même chose, puis dans tel autre chapitre, il répète encore la même chose. Si quelqu'un a saisi cette profondeur ou cette répétition sur les sujets, là, devrait penser, ben, si Prabhupada le répète tellement souvent, ça veut dire que ça doit être vraiment important. Alors, dans le Bhagavad Gita, il y a ces points-là. Comme Prabhupada dit, il y a cinq sujets. Alors, dans ce que nous lisons aujourd'hui, on peut faire un certain lien. Comme par exemple, que l'âme spirituelle dans le monde matériel se prend pour un purusha. Et comme Prabhupada dit, là, ça me revient, là, comme Prabhupada dit, les cinq sujets, et comme Prabhupada, moi personnellement, j'apprécie tellement quand Prabhupada donne le nom sanskrit du sujet, puis là, il dit, voici le nom, puis voici ce que ça veut dire, puis voici l'explication en plus, ça c'est numéro un. Alors, dans l'introduction de la Bhagavad Gita, Prabhupada dit, il y a cinq sujets, et il les nomme en sanskrit. Et là, il dit Ishvara. Ça, c'est pour Dieu, la personne suprême. Et il y a la nature spirituelle, il y a la nature matérielle, puis l'énergie marginale. Et le Ishvara, le contrôleur de toutes ces énergies-là, c'est Krishna. Alors, si un dévot, une dévote, se rappelle juste ce mot-là, Ishvara, alors, Ishvara, il fait quoi, lui, le Ishvara? Il est le maître, il est le contrôleur. Et parce qu'il est le maître, le contrôleur, en même temps, on peut déduire qu'il est aussi le possesseur suprême. Alors, je suis quoi là-dedans, moi? Quelle est ma position? Ma position? C'est comme, par exemple, là, ils viennent d'élire un nouveau pape. Vous avez entendu la nouvelle. Puis là, ben, tout le monde parle du pape. Ah ouais, donc, le pape, il est ci, il est ça. Surtout, il était ci, il était ça. Puis là, d'un coup, il est rendu pape. Ça, c'est correct. Mais une petite chose qui a attiré mon attention, c'est que du pape François, qui est le précédent, qui vient de quitter, tout le monde était d'accord pour reconnaître en ce pape-là qu'il était un pape humble. Et le pape qui vient d'arriver, ils disent la même chose, qu'il est humble. Et ça, c'est parfait. C'est ça que ça doit être une personne sainte à la base, c'est que la personne doit être humble. Et le gros problème avec la vie conditionnée, c'est qu'il n'y a personne qui est humble. Tout le monde veut être le Purusha. Tout le monde veut dominer. Dominer l'énergie matérielle, ça veut dire quoi? Utiliser l'énergie matérielle pour soi-même. Puis dominer même les autres êtres dans l'entourage. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi chez un non-dévot, qui sont des raisons matérielles, de conditionnement, de domination, et chez un dévot, ça ne devrait pas être là. Pourquoi? Parce que le dévot, c'est quelle est la position du dévot par rapport aux autres, selon le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu?
On est serviteur du serviteur du serviteur.
Exactement la position que le Seigneur Chaitanya dit pour tous les êtres, qui est souhaitable pour tous les êtres, c'est de se vouloir le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur de Krishna. Alors, dans cette mentalité-là, il n'y a aucune place, aucune raison d'être de vouloir dominer qui que ce soit. Ça, c'est la raison. Quand on parle là, il y a deux façons de dire le mot raison. Mettons, la raison pour telle chose, ça c'est une façon. Mais la raison, ça veut dire, t'es bien dans ta tête, là. La raison, vous voyez ce que je veux dire? Alors, la raison, c'est qu'on est seulement ça, un serviteur, et on devrait vouloir être serviteur de Krishna. Mais on ne peut pas être un serviteur de Krishna directement non plus. Ça fait partie de la philosophie. Alors, comme Krishna dit dans le Vishnu Purana, Krishna dit, quelqu'un qui dit qu'il est mon serviteur n'est pas mon serviteur. Mais celui qui dit qu'il est le serviteur de mon serviteur, celui-là est mon serviteur. C'est Krishna lui-même qui dit ça. Alors, la mentalité d'un dévot est une mentalité, si on peut dire, toujours joyeuse, toujours constante. Selon le Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 54, Brahma Bhuta, Prasanatma, Nasochati, Nakangshati, Sama Sarveshu Bhuteshu, Mad Bhaktim, Labhate Param. Sama Sarveshu Bhuteshu. Il voit les entités vivantes du même œil. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa propre position. Quand on ne connaît pas sa propre position spirituelle, comment est-ce qu'on peut ne pas être sans envie à l'égard des autres êtres vivants? Si soi-même on veut dominer, comment on va voir les autres? Il y a deux choses. Un, on veut dominer, on ne veut pas se laisser dominer. Et deux, on voit les autres qui ont la même mentalité comme des compétiteurs, des concurrents. On les voit. En fait, ça, c'est l'illusion. C'est Maya. La position d'un dévot, c'est. Il reconnaît qu'il est seulement un serviteur de Krishna. Et avec les dévots, ben, c'est ça qu'il y a de bien. C'est que tout le monde a la mentalité de dévot, c'est que tout le monde veut servir des dévots. Ça, c'est merveilleux. Puis la mentalité matérialiste, c'est que tout le monde est en compétition avec les autres matérialistes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste sur le pape, il y a un nom québécois, Provost, Robert Provost.
Prévost.
Prévost.
Ouais.
Ils
Prévost.
disent que son grand-père, c'était un Haïtien. Il était marin.
Ah bon, all right, je ne savais pas.
Ça.
OK. Bon, ça passe. En fait, ça passe mieux que juste américain, tout court. Ça, on repassera pour ça. Alors, mais c'est ça. Alors, c'est comme aux États-Unis, par exemple, certaines personnes, beaucoup de personnes, on ne dirait pas toutes, parce que ça ne se peut pas que ça soit 100%, mais un certain pourcentage de personnes Malheureusement, a commencé par le numéro un à la présidence, semble faire preuve de racisme et que, par ses actions là, c'est vraiment fou son affaire, révoquer le statut légal des immigrants aux États-Unis pour les renvoyer. Là, maintenant, c'est même plus chez eux. Ils vont les renvoyer ailleurs, en Libye, dans des pays qui n'ont aucun rapport avec ces gens-là. C'en est fou. Et ça, je sais pas, là, c'est pas conscient que je ne pense du tout, du tout, du tout. C'est des exemples, justement, comment on peut être égaré si on n'est pas conscient de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, à la lumière du premier paragraphe qu'on a lu aujourd'hui, comme Prabhupada parle, si une femme s'habille en homme, ce n'est pas naturel pour elle, ou d'essayer d'imiter un homme, ça ne marche pas. Puis le contraire est vrai aussi. Qu'un homme essaie de se faire passer pour une femme, il va avoir des problèmes lui aussi. Les hommes, ne seront pas tendres à son égard. Une femme, c'est une femme, puis un homme, c'est un homme, puis les deux sont supposés agir d'une certaine façon, avec une certaine mentalité. Puis, alors, comme, spirituellement parlant, comme Prabhupada dit, si on agit selon sa vraie nature, et notre vraie nature, c'est d'être serviteur de Dieu, serviteur de Krishna. Et tu essaies de prêcher à certaines personnes, au monde en général, essaies de leur faire avaler ce concept-là, qu'on est tous des serviteurs de nature. Ils ne comprennent pas. À première vue, ils ne comprennent pas ce concept-là. Là, il faut que tu donnes un exemple. Et encore là, on revient à l'introduction de la Bhagavad Gita de Prabhupada. Il donne l'exemple. Le mari sert sa femme. Le président du pays sert son pays. Monsieur A sert Monsieur B. Avec quelques exemples que Prabhupada donne, oups, ça commence à rentrer, le concept. Mais on n'est jamais maître. Ça, Prabhupada l'explique très clairement dans ses livres et surtout dans l'introduction de Bhagavad Gita, qu'on n'est jamais maître à aucun moment de notre existence. Alors, si on ne sert pas Krishna, on doit, comme on a lu aujourd'hui, là, une citation du Prema Vivarta, c'est instantané qu'on va être obligé de servir Maya, on va servir l'illusion. Alors, un dévot, dans sa vie de tous les jours, doit méditer sur cette philosophie de la conscience de Krishna, qu'on est un serviteur de nature, et si on ne sert pas Krishna, si on ne veut pas servir en étant conscient de Krishna, ben on va être obligé de servir pareil, mais à ce moment-là, on servira des objectifs matériels qui tiennent de l'énergie matérielle. Alors, comme par exemple, comment on peut faire ça aussi, servir Krishna? C'est pas n'importe comment. On peut pas servir Krishna n'importe comment. En donnant un exemple, la conscience de Krishna, telle que Śrīla Prabhupāda nous présente la conscience de Krishna, ce n'est pas long que. Là, je mets trois petits points. Ce n'est pas long que trois petits points. Puis là, revenons dans l'histoire du mouvement. Quand Prabhupada a ouvert le premier temple à New York, ce ne fut pas long que il a mis sur papier les quatre principes à suivre pour les dévots qui habitaient au temple à ce moment-là. Alors, Prabhupada a écrit ça à la main. Il a mis ça sur le tableau. Puis, bienvenue à la conscience de Krishna, mes chers disciples, futurs disciples. Voyez ce qui est au tableau aujourd'hui. Là, tu dis ça. Oups, le choc. Les dévots ont accepté. Mais la première réaction, ce fut un choc. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Mais c'est comme ça. Pour servir Krishna, il faut payer le prix. Et le prix, justement, ce sont les quatre principes régulateurs. Et comme Prabhupada l'a déjà expliqué, par exemple, supposons qu'une personne fume. Qu'est-ce qu'il fait quand il fume? Du point de vue du service.
Il sert son mental dans ses désirs.
Oui. Et moi, personnellement, j'ai essayé de fumer dans le passé. J'ai pas aimé ça. Ça s'est arrêté là, net, fret. No way, continuer là-dedans. C'était dans mon adolescence. Mais apparemment, il y a des gens, quand ils fument, ils se disent, ils sont pas capables d'arrêter. Moi, je peux pas relater parce que ça n'a jamais été mon expérience personnellement, là. Mais alors, il y a une impulsion, une pulsion pour attraper une cigarette. Puis ils s'achètent un paquet par jour. Des fois, il y en a qui fument un paquet, il y en a un certain nombre de cigarettes par jour. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre service à la langue, rendre service au sens.
C'est une addiction. Il y a de la nicotine. C'est comme un besoin psychologique très fort que le corps recherche. Ça dure quelques secondes. J'étais un fumeur.
Ouais. Alors, c'est ça, c'est des demandes des sens. Et puis, ça peut être autre chose aussi. En tout cas, X, Y, Z. Mais c'est ça qui se passe quand on oublie Krishna. Alors, les sens prennent le dessus, ou le mental prend le dessus, ou l'intellect prend le dessus aussi. Et puis, voilà. Question, oui.
Oui, justement, donc les quatre principes, justement pour cadrer. C'est le préma cadrage, en fait, quelque part. C'est sans ça, en fait, il ne peut pas y avoir autre chose après dans notre relation intime avec Krishna.
Exactement. C'est très, comment on peut dire, une fois qu'un dévot a accepté de suivre les quatre principes, ça ne veut pas dire que sur la base d'une première décision, qu'il ne peut pas avoir de chute par après. Mais par la grâce de Krishna, Krishna veille à corriger le dévot. Le dévot, une fois qu'il a décidé d'être conscient de Krishna, s'il fait des écarts, s'il a des écarts dans sa discipline, la première des choses, qu'il va ressentir une insatisfaction. Et deuxièmement, ben Krishna, ça c'est la correction que Krishna donne au dévot, de lui faire sentir une insatisfaction pour que le dévot veuille avoir ou ravoir la paix d'esprit qui vient justement avec la conscience de Krishna. Et ça, c'est pas artificiel.
Tout à fait.
Alors, les quatre principes sont là. Il y a une raison pour qu'ils soient là. Et comme Prabhupada, j'ai entendu dans une classe de Prabhupada il y a quelques jours, que si quelqu'un commet des activités pécheresses, il ne peut pas comprendre Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il y a des principes régulateurs. Pour qu'une personne ne fasse pas de péchés qui vont l'empêcher, en contrepartie, de comprendre Krishna, d'être conscient de Krishna. Alors, ça, c'est comme l'eau et le feu. Si tu vas avoir un bon feu, tu ne peux pas mettre de l'eau sur le feu. T'attendre à ce que le feu va être super. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, comment dire? Il faut accepter. Et ce qui fait qu'un dévot de Krishna, à un moment donné, Il va venir petit à petit, même s'il a des difficultés dans ses débuts, que ce soit dans le début, milieu, whatever. À un moment donné, il va arriver à la décision de vouloir justement s'abstenir de toute forme de péché et d'être conscient de Krishna, parce que justement, il n'y a rien qui vaut le bonheur que procure la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Le
La
péché,
voie de
c'est...
la purification.
Oui.
C'est la voie de la purification.
Oui. Madhavananda?
Le péché, alors, ce serait comme de la brume entre la réalisation spirituelle. Ça veut dire faire de la boucane, on ne voit pas clair. C'est que ça devient un désir matériel qui fait un peu de distorsion dans notre démarche spirituelle.
Oui, il y a ça. Puis si ça fait de la boucane, comme tu dis, la boucane est très crée un inconfort lorsqu'on la respire. Et ça devient vraiment... C'est terrible, ça. Il y a des gens qui en meurent. C'est ça, les incendies, là. Les gens, s'ils sont trop affectés par la fumée, c'est très désagréable. Et que faut-il dire d'en mourir, là? Alors, ça doit être terrible. Alors, c'est pourquoi c'est dit, par exemple, s'il y a un feu, vous vous couchez à terre parce que la fumée monte, et à terre, il n'y a pas de fumée, ou du moins moins. Mais c'est une terrible, c'est une calamité terrible, une souffrance, la vie conditionnée, ça, les incendies. Alors, voilà. Alors, un dévot. Il doit toujours, c'est comme il doit marcher tout le temps avec humilité, fonctionner avec humilité, reconnaissant sa position de serviteur éternel de Krishna. À ce moment-là, il n'y a pas de problème pour un dévot. Comme Krishna a dit à Arjuna, si tu n'écoutes pas mes instructions, tu peux faire ce que tu veux, Arjuna. Par contre, si tu suis mes instructions, tu vas franchir tous les obstacles de l'existence matérielle. Ça, c'est la grâce de Krishna pour un dévot. Alors, il y a combien de gens, et ça, c'est à tous les jours, des gens qui se chamaillent, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, qui argumentent, qui s'insultent. Que faut-il dire de s'entretuer? Simplement parce qu'ils ne comprennent pas leur propre position. T'sais, entre dévots, là, il n'y a pas de guerre. C'est comme là, encore, ce changement de pape-là. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont sur la place Saint-Pierre. Et il n'y a personne qui est inimical envers qui que ce soit. Parce que tout le monde, disons, tout le monde s'estime des chrétiens. Et des chrétiens, c'est des serviteurs de Dieu aussi. Et voilà. Et que ce soit les musulmans, que ce soit les hindous, entre guillemets, ou même des dévots. Les dévots, quand il y a un festival à Mayapur à chaque printemps, il y a des milliers de dévots qui viennent des quatre coins du monde. Puis il y a une harmonie. Ça, c'est le monde spirituel. Il y a une harmonie entre tous les êtres vivants. Et en autant que les êtres vivants ne s'identifient pas avec leur corps et gardent une mentalité de domination, c'est l'harmonie. Et ça, c'est très bienvenu.
L'ego, c'est le jeu, l'illusion. C'est ça qui nous garde dans le monde matériel. Le moi, tu sais qui je suis, moi. Le moi est matériel. Tu vois, ça, c'est la brume, je veux dire encore. C'est qu'est-ce qui nous empêche de voir la vérité que on est des serviteurs du serviteur, du serviteur du Seigneur.
Oui, le faux ego matériel. Alors, Prabhupada dit, le faux ego, c'est le nœud qui retient l'âme conditionnée à la matière. Alors, ça prend un pur dévot qui transmet l'enseignement, à savoir, il y a faux ego, mais il y a le vrai ego. Le vrai ego, c'est comme le Seigneur Chaitanya dit, Jivera Swarupoi Nitya Krishnadas, que la position constitutionnelle de chaque être vivant, c'est qu'il est le serviteur éternel de Krishna. Sous cette plateforme-là, tout le monde peut être heureux. C'est comme Prabhupada avait dit, non, pas Prabhupada qui a dit ça. C'est un astrologue par rapport à Prabhupada qui avait dit, lui, en parlant de Prabhupada, il peut avoir une maison dans laquelle le monde entier peut vivre. Vous vous souvenez de ça? Le monde entier peut vivre dans cette maison que Prabhupada a construite dans ISKCON, en fait, ou toute institution qui veut suivre dans les traces de ISKCON. En tout cas, la structure est là. Le monde entier peut vivre en harmonie dans le cadre de l'exécution de la conscience de Krishna. Ça, c'est merveilleux. C'est comme, mettons, un dévot de Montréal peut aller n'importe où dans le monde où il y a ISKCON et être très bien accueilli, connaître une réciprocation entre dévots, peu importe l'endroit. Ça, c'est la beauté de la conscience de Krishna.
Oui, parce qu'on parle tous le même langage, en fait. Ça dépasse le monde matériel. C'est le langage universel de Krishna. Donc, on se reconnaît tous, en fait.
C'est l'amour, non? C'est l'amour, le respect, le langage de Krishna.
Exactement. L'amour, le respect. Comme le Seigneur Chaitanya dit, quelqu'un qui est prêt à offrir tous ses respects à autrui, sans qu'il ne regarde pas pour le prestige pour lui-même, dans une humble mentalité, plus tolérant qu'un arbre, cette personne-là peut chanter continuellement les saints noms du Seigneur. C'est dans Shastakam, verset numéro 3. Alors, concernant Krishna, c'est imbattable. Quand on va à l'épicerie, en tout cas ici au Canada, Maxi qui dit, ah, c'est imbattable. Non, 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 les prix sont imbattables, oui, mais nous autres, on a quelque chose de mieux. On a la conscience qui est imbattable, la conscience de Krishna. Alors voilà, on continue à lire si vous n'avez pas d'autres questions ou commentaires. Alors, Ananda, veux-tu lire?
Oui, avec
Ligne.
plaisir.
Oui,
Ligne 44, hein, c'est ça?
c'est
Parfait.
ça.
Alors, cette vie humaine est particulièrement conçue pour comprendre cette vérité. La vie humaine est faite pour ça. Krishna instruit la société humaine. Appareyam itastuvidi pe me prakritim paraha. Bhagavad Gita 7.5. Il commença par décrire l'énergie matérielle. Bhumir apo nalo vayu. Bhagavad Gita 7.4. Cette dernière est aussi l'énergie de Krishna. Krishna est tout, le matériel, le spirituel, le marginal, tout. Parasya Saktir Vividheva Shruyate Chaitanya Charitamrita Madhya 13.65, teneur et portée. En un endroit donné, il est présent en personne, mais ailleurs, il est présent sous la forme de son énergie. Ainsi, tout appartient à l'énergie de Krishna. Parasya Brahmana Shakti, Ekadesha Shitasyagne, Yostna Vistarina Yata, Parasya Brahmanaha Shakti, Sarvedam Akilam Yagat Vishnu Puruna 1.22.52. Il est très bien décrit dans le Vishnu Purana de façon concise.
Purana,
Oh, pardon,
Purana.
Purana, excusez. Le Vishnu Purana de façon concise ce qu'est ce monde manifesté. Ce monde manifesté consiste en la distribution de l'énergie du Brahman. Tout comme ce monde matériel, cet univers consiste en une distribution de l'énergie du soleil. C'est scientifique, tout le monde le sait. De même, tout ce qui existe revient à la distribution de l'énergie de Krishna. Par conséquent, Krishna et son énergie ne sont pas différents. Mais toujours est-il que l'énergie en soi n'est pas Krishna, et Krishna n'est pas simplement énergie. C'est ainsi à proprement parler que nous devons comprendre Krishna. Ainsi, tout être vivant qui a oublié Krishna et qui essaie d'être, d'imiter Krishna, devient coupable de péché. S'ensuit une série d'activités pécheresses relevant de l'ignorance, digne d'un niveau de vie inférieur. Tout comme les chats, les chiens, les oiseaux, les arbres et les... Ils n'ont pas de connaissances. Ils n'ont pas la capacité. Ils en ont pas la capacité. Ils sont tellement couverts d'ignorance, si bien qu'un arbre, par exemple, est debout. Coupez-le et il ne protestera pas, parce qu'il est si amorphe. De même, vous amenez un animal à l'abattoir, il ne peut pas protester. Tels sont des signes de l'ignorance. Par contre, en présence de la conscience de Krishna ou d'un être ayant une conscience suffisamment développée, si je vous pince, vous allez immédiatement protester. Pourquoi m'avez-vous pincé? Telle est la différence entre un champ de conscience de niveau inférieur et celui d'un niveau supérieur. Par conséquent, si nous ne profitons pas de notre conscience de niveau supérieur pour comprendre Krishna, alors cela revient à nous suicider, nous nous tranchons la gorge, c'est un péché. Voici donc une opportunité, la forme humaine de vie. La mort surviendra autant aux chiens et qu'à moi. Alors où est la différence? La différence est que tant que je vis, je peux essayer de comprendre Krishna. Les autres ne le peuvent pas. Si nous ratons cette opportunité, alors nous nous suicidons. Tel est le verdict des Sastras. Nayam deha dehi deho bhajam ni nrin loke. Tout le monde a un corps matériel. La fourmi a obtenu aussi son corps matériel, et le Seigneur Brahma a obtenu aussi son corps matériel. Tout être se trouvant dans le monde matériel a obtenu son corps matériel. C'est pourquoi on le dénomme Ayam Deha, ce corps, ce Deha, ce corps. Je ne suis pas ce Deha. Ce sera par ignorance la plus crasse si je pense je suis ce corps. Naim Deho Deha Bhajam Nriloke. Srimad Bhagavatam 5.5.1. Tout le monde a un corps, mais Nriloke, dans la société humaine, le corps que vous avez ou la personne qui a obtenu cette forme humaine de vie, Kashitan Kamana Arate, pour un tel être vivant, je veux dire, avoir ce corps matériel, le corps humain, il n'est pas fait pour travailler sans répit. Dans le cas d'une civilisation de premier ordre, les gens ne s'évertuent pas à travailler dur. Ils peuvent vivre très paisiblement et sont comblés quant aux nécessités de la vie. C'est ça une civilisation de premier ordre. Ça ne revient pas à travailler jour et nuit comme des porcs et des chiens et avoir une tasse de thé et un petit morceau de pain. Ce n'est pas ça la civilisation. C'est pourquoi le sastra dit Nayam deho deha bhajam niloke kastan kaman arate vi Vidbu, Srimad Bhagavatam 5.5.1. Il est spécifié que le dur labeur en échange d'un brin de gratification des sens est le propre des porcs et des chiens. Par conséquent, enseigner aux gens de travailler jour et nuit à seule fin de se nourrir pour leur satisfaction des sens, voilà qui relève d'une civilisation de porcs, selon les sastras. Nayam deha deho bhajam nriloke kastan kaman arate vidbujam ye. Dans quel but la vie humaine devrait-elle s'épanouir? Tapo divyam patruka yena sudyed sadva yena brahma shokyam dve anantam Srimad Bhagavatam 5.5.1. Tout le monde cherche le bonheur. Pour cause, cette vie est faite pour être dévouée tapasya, à l'austérité, à plutôt éviter la gratification des sens. Au contraire de ce que font les chiens et les porcs. Vous êtes un être humain, vous êtes capable d'austérité. Mais pourquoi devrais-je pratiquer l'austérité? Le sastra ajoute, Yato
Soudhyé Sattva, c'est ainsi que votre existence sera purifiée. Vous souffrez en ce monde matériel parce que votre existence est impure. C'est pourquoi vous devez rencontrer la mort. Qui doit mourir? Un homme malade meurt. Bien sûr, tout le monde meurt. Tout le monde est malade ici. Mais généralement, nous comprenons qu'une personne qui n'est pas en bonne santé meurt. Alors pourquoi mourons-nous? Nous sommes éternels, tout le monde le sait. Nityaha sasvato yamna anyate anyamane sarire. Bhagavad Gita 2.2, 2.20. Alors pourquoi dois-je mourir? Pourquoi dois-je souffrir de la maladie de la vieillesse? Ce sont des questions pour les humains et ils devraient essayer de trouver la solution. Et cette opportunité leur est offerte par le concours réuni de la nature et de Dieu. Dieu a ordonné à la nature de me donner cette machine, un corps de forme humaine. Si nous ne l'utilisons pas en tant qu'être humain, c'est péché de notre part, c'est péché. Il existe de nombreux témoins dans la vie, tels que nous en avons déjà discuté.
OK, merci, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? OK. Dans la philosophie, c'est la cons de la philosophie de la conscience de Krishna est très importante. Encore une fois, on le répète. Et comme Prabhupada a dit, la religion sans philosophie, ce n'est que sentiment. Et la philosophie sans religion, ce n'est que spéculation. Alors, ça prend une combinaison des deux. Et on doit fonctionner avec cet entendement-là, comme Prabhupada nous le décrit, comme étant l'équilibre parfait, philosophie, religion. Et c'est pourquoi. Disons, il y a des gens, et ça, on parle encore du pape, pas le pape personnellement, là, mais disons qu'il y a des gens qui voient ça, à quoi ça sert, si le pape ne va pas régler les problèmes d'abus sexuels au sein de l'Église, ce genre de choses-là. Mais justement, il y a du monde là-dedans qui n'ont pas la rigueur nécessaire et la philosophie, elle tient pas la route. C'est beau, la Bible, etc. On peut la lire 500 fois, mais encore une fois, s'il y a une déviation, puis là, la déviation veut dire, ça peut se résumer à, ils suivent pas les quatre principes régulateurs, il y en a un des quatre principes qui est pas suivi. Sans qu'ils sachent, tu vois, les chrétiens, eux autres, c'est les 10 commandements. Et Prabhupada dit, il n'y a pas de différence entre les 10 commandements et les 4 principes de la conscience de Krishna. Il n'y a pas de différence là-dedans. Alors, ce sont les bases, disons, pour avoir une conscience de Dieu. Alors, ça prend la grâce de Krishna aussi. Krishna est dans le cœur, et comme Madhavananda dit souvent, c'est le désir, c'est le désir, c'est le désir. J'attends qu'il me fasse un signe. C'est le désir. C'est le désir. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur plus profond de l'être? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Qui va justement déterminer, va avoir un impact sur la façon qu'il va se comporter. Et ça demande, des fois, on change de sujet un petit peu, là. Des fois, dans le mouvement de la conscience de Krishna, dans un certain passé, il y a des dévots qui ont rencontré certaines difficultés. Il y a des dévots, par exemple, en poste d'autorité, qui se sont ramassés dans une situation difficile. Et là, je n'ai pas de désir d'entrer dans des détails quelconques, mais ce qui était dit ou ce qui est dit lorsqu'un dévot est en difficulté, là, je le dis en anglais, c'est une occasion de ce qu'on appelle soul searching, de chercher son âme. C'est une occasion de réfléchir. Mettons, comment je suis arrivé dans telle ou telle situation difficile et comment je peux m'en sortir? Et en général, la solution pour s'en sortir, c'est augmenter sa conscience de Krishna. Alors, si on se ramasse dans une situation difficile, ça peut arriver. Quelqu'un ne sera pas le premier, ne sera pas le dernier non plus à se ramasser dans une situation difficile. À ce moment-là, on peut dire, c'est une occasion de réflexion, de se chercher une meilleure position dans la conscience de Krishna, une position consciente de Krishna. Et c'est dit, par exemple, c'est le Seigneur Brahma qui dit ça. Qu'un dévot, lorsqu'il est mis en difficulté, il voit ça comme la miséricorde de Krishna. Et il donne encore plus son hommage à Krishna, reconnaissant que ce n'est qu'une infime réaction pour ses activités pécheresses du passé. Alors le dévot, encore une fois, on fait appel à l'humilité. Le dévot, dans son humilité, reconnaît, OK, j'ai, comme diraient les Français, j'ai gaffé dans le passé. Alors maintenant, il m'arrive les réactions que je mérite, que j'accepte. Et la seule façon de se tirer d'affaire, en fait, c'est pas tirer d'affaire, c'est de, comment on peut dire, de se replacer, de se replacer dans la meilleure position possible, c'est d'être conscient de Krishna. Et ça, c'est aussi, c'est la merveille de la conscience de Krishna. Comme par exemple, ça, j'ai lu ça dernièrement, là. Dans la chrétienté, il y a le sacrement de confession. Et le Prabhupada, ben ça aujourd'hui, ils ont changé ça, je pense, d'après ce que j'ai entendu. Mais le sacrement de confession, c'est que la personne va voir un prêtre qui, lui, agit à titre de représentant du Christ et qui pardonne les péchés, dépendant aussi d'une contrition, d'une certaine forme de pénitence à faire. Du pécheur ou de la pécheuse, je ne sais pas si c'est un bon mot de dire ça comme ça, mais et puis voilà, le système fonctionne comme ça. Alors, par contre, avec la conscience de Krishna, il n'y a pas de confession officielle, si on peut dire externe, plus que ça. Quoique c'est dit, les dévots peuvent révéler leur mental à un autre dévot. Et ça, c'est un. Personnellement, je ne considère pas que c'est la meilleure chose à faire, là. Mais des fois, pour un dévot, ça peut être vraiment soulageant de pouvoir exprimer son mental, exprimer ses difficultés, puis chercher de l'aide, et puis recevoir les coups de pouce qu'il peut avoir besoin. Mais ultimement, il n'y a personne qui peut décider à sa place, à savoir si. Il faut que ça vienne au plus profond de son cœur, qu'il dise, OK, j'ai commis une bévue. Maintenant, il faut que je me corrige et puis je prie Krishna d'avoir l'intelligence nécessaire de me mettre dans le droit chemin. Et puis, merci Hare Krishna, puis merci Krishna de m'éclairer, puis de. C'est aussi simple que ça, là. Mais si on peut dire, dans une certaine façon, c'est une forme de confession entre le dévot et Dieu lui-même, qui est présent dans le cœur de chacun. Et puis, la vie continue. Il n'y a pas d'autre façon. Une fois, il y a un dévot, je pense qu'il avait. C'est un dévot, ça, du premier temple à New York. Ce même dévot-là est gourou aujourd'hui. Il avait quitté les dévots Et Dieu sait ce qu'il a fait quand, disons, quand il a quitté Devo, ça, je ne sais pas, personnellement. Mais il a décidé de revenir à Prabhupada, parce que Prabhupada était là, dans ce temps-là. Et quand il est revenu à Prabhupada, il rampait par terre. Il avait les larmes aux yeux. Il était vraiment repentant. Évidemment, Prabhupada l'a accepté, ce dévot-là. Prabhupada n'a jamais, disons, rejeté qui que ce soit pour, mettons, les écarts qu'ils aient pu connaître. Prabhupada a toujours accepté. Et parfois même des dévots à qui Prabhupada a donné le sannyas et qui ont dévié. Prabhupada les a acceptés pareil. Ils n'ont pas condamné ad vitam aeternam, ad vitam aeternam. Disons, genre, je ne veux plus jamais rien savoir de toi. Ça n'a jamais été cette attitude de Prabhupada. Prabhupada a toujours, ben, il va dire, OK. Bon, par exemple, si le dévot était un sannyas, c'est sûr, c'est un swami, là. Ben, il va dire, OK, t'as besoin d'une femme, bon, ben, marie-toi. Puis continue la conscience de Krishna. Puis c'est arrivé. Puis, c'est comme ça. Alors, il y a toujours une façon d'être conscient de Krishna qui ressemble, qui est moulée à notre véritable position spirituelle. Donc, c'est ce à quoi la conscience de Krishna doit nous faire arriver à fonctionner dans cette façon-là. Alors, quelqu'un qui n'est pas un swami, qui n'est pas en maîtrise de ses sens, ça, on l'a déjà lu, ne devrait pas aspirer à prendre l'ordre du renoncement juste pour le nom de devenir un swami. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas artificiel. Et si quelqu'un a accepté pareil, puis là, c'est sûr, le temps va le rattraper, il va se casser la figure. À ce moment-là, il peut, c'est pas l'idéal, mais il devrait revenir sur ses pas. Et puis, s'il a besoin d'être marié, bien qu'il se marie, mais la vie continue. La conscience de Krishna continue. Alors, c'est pas un crime en soi d'être marié. Et ça c'était une des. Si on peut dire une des, on va dire le mot pour le mot, là, une forme d'arrogance dans les débuts du mouvement des brahmacharis, fiers et durs, comme si glaçon ne va jamais fondre au soleil, alors qu'ils sont entraînés par des swamis aussi. Mais quand tu regardes qu'est-ce qui est arrivé avec le temps, la majorité ça, ne sont pas. Dans le mouvement, il ne faut pas se faire faut pas se raconter des histoires. La majorité, ce n'est pas des brahmacharis. C'est pas compliqué. Dans les années 70, quand dans les années, ben c'est ça, 70, parce que le mouvement a été fondé en 66, mais si tu regardes, mettons, 70, début années 60, des années 60, début années 70, la majorité des dévots étaient célibataires, autant les jeunes femmes que les jeunes hommes. Puis avec le temps, la majorité finissent par se marier. C'est aussi simple que ça, là. Alors, une fois marié, si quelqu'un a eu un bon training durant sa vie célibataire, il va garder ça. Ça le suit dans sa vie après, dans sa vie de grihastha. Et comme Prabhupada dit dans Srimad Bhagavatam, deuxième chant, Il dit, on devrait être un bon grihastha. Puis là, il définit c'est quoi un bon grihastha. Et il dit aussi, on ne devrait pas être un griha-médi. Un griha-médi veut dire quelqu'un qui est marié, mais dont le comportement vise la satisfaction des sens. C'est griha-médi. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Dans les problèmes, un peu, c'est comme donner pour avoir des bonnes légumes, on met du bon fumier, ils grandissent bien.
Oui.
Dans la vie, les problèmes, c'est comme du bon fumier pour l'être humain pour grandir.
Oui, si l'être humain est assez intelligent pour le voir comme ça. Tu sais, le problème, là où sont les problèmes, c'est à partir, c'est dans les modes de la passion et l'ignorance. Parce que les gens, et surtout l'ignorance, parce que les gens qui sont recouverts par l'ignorance, c'est comme, c'est peine perdue d'avance presque. La rareté, c'est d'avoir des êtres humains qui ont un certain flair pour le mode de la vertu. Et c'est ce qui va faire une grosse différence. Alors, des êtres humains. Tu sais, c'est comme, mettons, tu vas à l'épicerie, mettons. Il y a toutes sortes de monde qui vont à l'épicerie. Les dévots vont à l'épicerie. Et les non-dévots aussi vont à l'épicerie. Puis il y a des choses qui conviennent aux dévots. Tu sais, comme tu vas dans, mettons, un maxi de ce monde ou une grande surface de ce monde. Alors, par exemple, il y a des produits laitiers. Mais dans le même commerce, il y a du vin. Alors, tu veux boire quelque chose, mais qu'est-ce que tu vas boire? Alors, pour certaines personnes, dis, ah, moi, il y en a du monde comme ça. Dis, ah, moi, j'aime pas le lait. J'aime pas les produits laitiers. Ils n'en achètent pas. Il y en a qui en achètent par obligation parce que c'est bon pour la santé, mais c'est pas leur tasse de thé, si on peut dire. Puis il y en a d'autres, c'est quand pour boire, s'il faut boire, ben bois la bonne chose. Alors, va t'acheter une bouteille en quelque part, puis ça coûte beaucoup plus cher en plus. Je sais pas ce qu'ils ont l'intelligence de balancer les choses. Acheter une pinte un litre de lait, puis une bouteille de vin, c'est pas le même prix, ça, cette affaire-là. Alors non. Et ça,
Le vin,
c'est.
il y a des taxes d'amusement à la fin, parce qu'après avoir fini une bouteille de vin, la tête est pas bon. Alors tu payes tes taxes d'amusement, les douleurs, tandis que le lait, non, le lait, y a pas de taxes, il
C'est
est plus.
ça, duty free.
Ouais.
Alors, c'est dans la vertu. Alors, un dévot, par la force de la pratique de la conscience de Krishna, devient habitué à évoluer dans le mode de la vertu. C'est un dévot. Un dévot est plus paisible. Le résultat de la vertu, c'est le bonheur. Le résultat de la passion, c'est une insatisfaction. Tu n'es jamais satisfait. Tu as plus de désir, plus d'angoisse. Puis dans l'ignorance, c'est la sottise, l'illusion, comment on peut dire, être amorphe. C'est le mode de l'ignorance. Alors, tout ça, c'est dans Bhagavad Gita, là, chapitre 14, les trois gunas. Et même chapitre 18, il y a comme une récapitulation aussi sur les gunas de la nature matérielle. Alors, le dévot a l'opportunité d'utiliser sa forme humaine de vie à bon escient. Et ça, ben, justement, ça mène à une vie qui est plus une vie dans le mode de la vertu. C'est la vie de dévot. Alors, OK, c'est des questions, des commentaires? Je me souviens quand j'étais nouveau dévot, disons 6 mois après que j'ai entré au temple de Montréal comme dévot, full time. Oups. Là, on m'a demandé si je voulais aller servir à Paris. J'ai dit oui. Mais avant d'aller à Paris, ils m'ont envoyé à New York parce qu'il fallait prendre l'avion à New York. Alors, pas au temple de New York, je n'avais jamais voyagé vraiment de ma vie, disons tout seul aux États-Unis. Et là, je m'en vais au temple de Brooklyn, qui était le temple de New York, c'était le temple de New York officiel, pas le Second Avenue du début, mais le temple par après, c'était à Brooklyn. Je m'en souviens encore de l'adresse, 4 rue Henry Street. Ça, c'était le temple qu'il y avait. Alors, je suis arrivé vers les 3 h 15, 3 h 30 du matin. Alors, tellement capote que je savais, je n'allais pas être au programme du matin avec les dévots. Ça, je savais, net, clair et précis. J'étais trop fatigué. Et quand je me suis levé, là, il y a un dévot qui est venu me réveiller puis me dire, c'est l'heure du prasad. Alors, à voix et fort, ça, je me lève pour aller au prasad des dévots. Et puis, les dévots, la façon qu'ils faisaient au temple à ce moment-là, ils prenaient comme un rouleau de papier ciré. Il y avait à peu près 125 dévots dans ce temple-là. Il y avait beaucoup de dévots. Ils tiraient le rouleau sur un bon, je sais pas moi, mettons 25 pieds, si c'est pas plus long. Et les dévots mangeaient un en avant de l'autre sur ces rouleaux de papier ciré. Puis là, les dévots venaient servir une espèce de céréale assez pâteuse et constituante. Parce que faut que tu mettes ça épais parce que ça va, sinon ça va répandre sur partout. Alors tu mangeais ça avec les doigts. Mais moi, je trouvais ça bon. Je trouvais ça vraiment bon. Et puis, mais ça, vivre dans une façon comme ça, c'est dans la vertu. Tu verras pas ça ailleurs. T'sais, supposons, là, tu dis, ah, tu es dans ta maison, pis OK, on reçoit des invités. Tes invités, c'est l'oncle, la tante, le cousin, la cousine. Tu vas-tu les faire manger par terre? Ben non. Tu vas les faire manger dans la salle à manger, chacun a son couvert, ses couteaux, fourchettes, assiettes, puis etc., etc. Mais les dévots, eux autres, c'est ah ouais, c'est le plancher, tout le monde. Et en Inde, c'est avec des feuilles de bananier. Pas juste en Inde qui font ça, là. C'est là où ils ont les feuilles, justement, les dites feuilles. Alors, c'est dans la vertu, c'est selon la nature. Mais en Inde, quand j'étais là, c'est les feuilles. Puis après, quand tout le monde a fini de manger, tu ramasses tout ça. Faut mettre ça dans un tas, puis c'est les cochons qui viennent finir la job. Alors, il n'y a pas de camion de déboueurs qui viennent passer, ramasser, c'est les cochons qui s'en chargent. Alors, tu ne peux pas avoir plus naturel que ça. C'est impossible. Alors, la conscience de Krishna, ça te donne une occasion de la vertu. Alors, tu peux aller dans tel pays, tel Iscon ici, Iscon là-bas, whatever, Amérique du Sud, Amérique du Nord, mais c'est un mode de vie dans la vertu. Et c'est Vaikuntha. C'est vraiment reposant pour l'esprit. Puis la seule chose que tu pries ton prachad, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Tu dis, mettons, quand j'étais à New York, t'as pas de service attitré, tu sais, t'es un dévot de passage, comme n'importe, mais t'es pas un dévot de la place, t'es pas un dévot du temple de New York. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eux autres, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi. Alors, rendu vers les 10 heures, à telle période de la journée, Prabhu, est-ce que tu veux venir chanter avec nous autres? Alors, c'est évident que tu dis oui, ben, j'ai rien à faire. T'en as pas de service. Alors, tu suis la parade. Et puis, là, il y a un dévot qui te dit, Prabhu, assure-toi de rester avec le groupe parce que tu connais pas la place. Puis, on était allé chanter à un moment donné, pas tout le temps, mais à un endroit qui s'appelle Harlem. Puis Harlem, c'est juste des Noirs, c'est reconnu. Si t'es un Blanc qui est perdu là-dedans, tu risques de passer un mauvais quart d'heure. Mais avec les dévots, il n'y avait pas de problème. On était, je sais pas, moi, 80, 100 dévots. On va être donc, on va chanter dans Harlem, il n'y a pas de problème. Puis, that's all. C'est la conscience de Krishna. Krishna a toujours une façon de protéger les dévots aussi dans ce qui arrive. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Prabhu, quand vous étiez une centaine, c'était 100 personnes, l'amour qui marchait dans la rue. Comment on peut battre l'amour? Est apprécié par tout le monde.
Oui, il y a ça. Et cet amour-là, est éclatant dans les visages des dévots. Comme Prabhupada disait, il y avait des gens qui avaient fait des commentaires sur les dévots, puis c'est venu aux oreilles de Prabhupada. Puis les gens avaient dit que les dévots, disons, avaient ce qu'on appelle en anglais bright faces, des visages brillants. Et ça, l'effet de la conscience de Krishna, c'est que tu as un visage, comment on peut dire ça? Tu as une.
Une aura.
Oui, c'est ça, une luisance dans le visage. Quand tu regardes des personnes qui sont pas conscientes de Krishna, my goodness, c'est un peu moche, mais ils ne le savent pas. Tu peux pas vraiment leur reprocher parce qu'ils ne le savent pas. Comme dit mon épouse dans cette vie, elle me dit souvent, des fois elle fait un commentaire, elle dit un tel visage de bœuf. Alors, des fois, je vois du monde ils ont pas de sourire, puis ils ont de l'air vraiment, comment on peut dire, très grave, très, en tout cas, très pris dans leur vie. Mais pas de sourire. Hein?
Sur le cœur, toute le côté d'identité matérielle, la poussière est partie, alors il brille. Ça brille sur le visage, parce que qu'est-ce que le visage, il est? C'est la réaction de ton cœur. Si ton cœur est ténèbre, ça se voit sur ton visage. Alors c'était que la brillance de l'amour, elle vibrait sur le cœur de chaque dévot dessus. Ça paraissait, c'est ça.
Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, mais c'est comme ça. Des fois, des fois, je regarde du monde et je ne veux pas juger. Je n'ai pas une raison de juger. Mais des fois, je dis à mon épouse, ah, c'est tel, tel, tel visage de bœuf. Mais sans, il n'y a pas de plaisir à dire ça, mais c'est juste une constatation. T'sais.
Et
C'est.
ils souffrent aussi, parce qu'ils ne sont pas conscients de souffrir, en fait, parce qu'ils sont, comme on disait tout à l'heure, passion et ignorance, on court toujours derrière quelque chose, on n'est jamais satisfait, on est, donc c'est ce stress, c'est ça qui retranscrit sur leur visage, en fait. Ils n'ont jamais le temps pour prendre le temps de se pencher sur leur véritable, le sens de la vie, en fait. Déjà, la base, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on y vient faire, quoi. Déjà, c'est la base. Non, c'est Yana, c'est. soit à la petite échelle, c'est-à-dire c'est vraiment comme on disait tout à l'heure, les bras, ils sont au service pour une misérable paye, pour vite aller la dépenser en plaisir futile, quel qu'il soit. Et en finalité, ils passent à côté de leur vie. Que la
Exact.
Prabhupada nous le dit tout le temps.
Oui, exactement. Tu as tout à fait
Ils
raison.
ratent le coche de la vie humaine, en fait. Et
Ouais.
c'est nos rôles à nous, aussi petits soit-on, dévots, éclairés, conscients, dans nos relations, dès qu'on a l'occasion d'essayer de faire comprendre aux gens que c'est peut-être pas là la bonne voie, quoi, en fait. Il faut peut-être regarder ailleurs parce que, voilà, on planter de l'argent, on n'a jamais d'arbre qui a poussé, hein. Donc, ça c'est au contraire.
Ouais.
Et on le voit dans la
Bon.
géopolitique
Là.
aujourd'hui, hein, les gens s'entretuent depuis des années pour un morceau de terre. Ça, c'est à moi. Donc, si c'est à moi, je vais. Mais en fait, il n'y a pas de religiosité autour de tout ça. C'est pas un curé, etc. On se bat pas pour le bien ne se bat pas contre le mal. En fait, c'est le mal qui se bat contre le mal juste pour la possession et l'ego surdimensionné de deux ou trois bonhommes sur cette planète, en fait. On en est là aujourd'hui. Moi, c'est comme
Ouais.
ça que je vois les choses, en tout cas.
Ouais.
Et tout le monde
Alors,
va dans ce
je.
sens-là,
Ouais.
sauf les dévots.
Ouais. Je voulais juste dire, Prabhupada, dans une teneur portée du Srimad Bhagavatam, Prabhupada dit, le dévot attire les âmes conditionnées par son sourire. Et les gens deviennent des dévots en voyant le sourire d'un dévot, comme Prabhupada, par exemple. Juste à regarder une photo de Prabhupada avec son sourire immatériel, c'est très, 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 très attirant ou séduisant. On ne se lasse jamais de voir une photo de Prabhupada. Par contre, il y a des photos de Prabhupada où Prabhupada est très grave. Et ça, c'est une des qualités, une des 26 qualités d'un dévot, c'est la gravité. Et Prabhupada explique dans Nectar de dévotion, qu'est-ce que veut dire la qualité de grave d'un dévot? C'est que tu ne peux pas lire sa pensée. Ça, c'est la qualité d'être grave. Tu ne peux pas deviner la pensée d'un dévot, qui justement affiche une gravité dans son visage. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il pense. Alors, comme Prabhupada dit aussi, seul un pur dévot peut comprendre un autre pur dévot. Alors, voilà. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.